France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour poursuivre ensemble notre exploration de l'inconscient, notre voyage à travers l'inquiétante étrangeté, notre aventure au cœur du plus intime de notre être. Je vous ai parlé des rêves et des cauchemars pour vous montrer la dimension radicalement nouvelle de l'interprétation freudienne des rêves, la dimension bouleversante de l'interprétation lacanienne du cauchemar en direction du plus mystérieux de notre activité psychique. Il est en effet un certain nombre d'expériences vitales et existentielles qui nous confrontent à une énigme en nous-mêmes, qui nous confrontent à ce que saint Augustin a nommé « la grande question que je deviens pour moi-même lorsque je souffre, lorsque je suis confrontée à une perte, sans savoir quelle est exactement la cause de ce qui m'affecte en mon corps et en mon âme ». Sans pouvoir saisir pourquoi cette perte m'affecte tant. Parmi ces expériences, il en est une qui n'est pas si légère qu'on pourrait le supposer. Il en est une qui peut produire en nos vies des bouleversements décisifs, mais aussi quelquefois des effondrements. Il en est une qui peut donner à notre vie la teinte d'un conte de fées à l'envers. Il en est une qui peut donner à notre existence l'atmosphère d'un mauvais rêve. Cette expérience est celle de l'amour. Aimer et consentir à avancer dans la région de l'expérience amoureuse, c'est aussi ne pas savoir ce qui cause cet amour que l'on éprouve. Ne pas saisir d'où vient cet émoi qu'un autre en particulier suscite en nous. C'est aussi pourquoi l'amour a à voir avec l'inconscient. L'expérience de l'amour produit en nous des symptômes, de l'angoisse, quelquefois des inhibitions ou des débordements. L'amour fait circuler en nos veines une substance nouvelle, entre désir et jouissance. Je vais aujourd'hui vous parler du premier consentement à l'expérience amoureuse et sexuelle. Ce qui arrive dans l'amour, dans la première rencontre avec l'autre, peut relever de la rencontre capitale qui changera mon existence, qui introduira de la nouveauté dans ma vie. Mais cela peut aussi me confronter à un questionnement, à une souffrance, voire à un abîme. La rencontre avec le corps de l'autre peut prendre une tournure quelquefois si réelle que cela en devient un cauchemar. Il y manque de l'imaginaire, des fantasmes et des scénarios. Il y manque aussi du symbolique, des mots, des paroles, des histoires. Il y manque de quoi habiller la rencontre et l'inscrire dans mon histoire.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
C'est avec Freud et Lacan, mais aussi avec Sofia Coppola, que je vais vous parler aujourd'hui du premier consentement. Je vais explorer avec Virgin Suicides, ce film de 1999, l'atmosphère de mauvais rêves et de fin du monde qui peut parfois embrumer l'existence après une rencontre manquée. Avançons ensemble en direction des surprises de l'amour, mais aussi de l'étrange gravité de la sexualité. Avec la sexualité, ne sommes-nous pas confrontés à l'insoutenable légèreté de l'être, comme l'a nommé Milan Kundera, soit à cette étrange évaporation de notre propre être depuis une rencontre qui peut nous insuffler un élan de vie, mais aussi nous fragiliser et nous conduire quelquefois à perdre pied. Insoutenable légèreté de l'être, et aussi étrange pesanteur de la rencontre avec ce qui se passe en notre corps, et que nous ne comprenons pas toujours. Comme le disait Lacan, il se passe en mon corps des choses que je ne sais pas, mais que j'éprouve. Avec la sexualité et avec l'amour, nous sommes entre recherche de jouissance et risque pris de nous perdre. La vie amoureuse et sexuelle, c'est toujours du hors-programme. C'est toujours ce que nous n'avions pas prévu, ce qui nous confronte à du non-savoir, ce qui fait que nous ne savons pas toujours comment nous devons répondre à ce qui se passe en nous, ou répondre de ce qui se passe avec l'autre. Car nous ne sommes pas dans la sphère de l'instinct de conservation et de reproduction. Avec Freud et avec Lacan, avec la psychanalyse, nous apprenons que la vie sexuelle ne consonne avec aucune harmonie préétablie. Il n'y a pas de programme. Nous sommes propulsés dans la région des pulsions, dans le territoire de la jouissance. Et là, la vie sexuelle est frappée de quelques fêlures peu naturelles. Oui, il y a quelque chose d'un peu fêlé en nous, comme le dit Lacan. Alors le premier consentement à la sexualité ouvre toujours un territoire inédit pour chacun. Ici, pas de méthode, pas de recette, pas de technique, pas de savoir. Je consens sans savoir, parce que je consens au désir qui surgit en moi depuis la rencontre, toujours inattendu, et je ne sais pas ce que cela va donner. Le terme de consentement a pris une place nouvelle dans les fragments de nos discours amoureux. Mais ce consentement, que je vais aborder avec vous depuis la psychanalyse, n'est pas un consentement libre et éclairé, comme on le définit par exemple en droit. En matière amoureuse et sexuelle, il n'y a pas de consentement éclairé. Le consentement ne relève pas de la sphère du contrat. Le consentement n'est pas un acte rationnel, mais c'est un dessaisissement de soi en faveur de l'autre. Consentir engage toujours le corps, et pas seulement la raison et la volonté. Consentir embraye sur le corps et le mystère de la jouissance. Consentir dans le champ du désir, c'est toujours dire oui sans savoir à l'avance jusqu'où ce oui va nous conduire. C'est se laisser traverser par un élan, qui est l'élan même du désir. C'est faire confiance, se fier à la rencontre et y croire. Cum sentire, se sentir avec son corps et avec l'autre. Consentir, c'est alors toujours prendre un risque avec son corps, avec son désir, un risque avec soi-même. Mais c'est aussi ce risque qui fait l'éclat de la rencontre. Ne jamais consentir, sous peine de ne pas savoir, serait refuser le kairos, c'est-à-dire l'occasion favorable, comme la nommaient les anciens. C'est une seule fois qui se présente et qui fait qu'on a envie d'y aller. Oui, on y va, on se lance, on s'y risque, on se fie à son désir, pour une fois. Il y a alors comme un sentiment d'intensité qui s'éprouve depuis ce consentement. Cette intensité m'amène à sentir mon corps comme je ne l'ai jamais senti, mon corps comme débordé par le vivant en moi. Mais quelquefois, c'est aussi trop. Je ne sais plus où m'arrêter dans ce oui, jusqu'où consentir encore. Cette étrange région de l'amour et de la sexualité, et celle où Eros et Thanatos, la pulsion d'amour et la pulsion de mort, comme les nommait Freud, se conjoignent, comme si pouvait s'opérer à mes dépens une confusion entre une jouissance d'aimer et le risque de se détruire soi-même pour l'autre. Comme si le consentement faisait aussi se brouiller la frontière entre ce qui me conduit du côté de la vie et ce qui me conduit du côté de la mort, entre ce que je désire et ce que je fais sans savoir même que je ne le désire pas, sans apercevoir que je malmène mon désir. Comme en un étrange renversement, ce qui m'apportait un surplus de vitalité en vient à me ronger de l'intérieur, à amoindrir mes forces vitales. Comme le dit Freud, dans le plein état de passion amoureuse, la majeure partie de la charge libidinale se trouve transférée à l'objet, et ce dernier prend dans une certaine mesure la place du moi. C'est dire que l'état de passion amoureuse peut me conduire à vouloir être tout pour cet autre qui devient tout pour moi. Tout se passe comme si je ne comptais plus pour moi-même. Tout se passe comme si j'étais envoûtée. Oui, un autre a pris la place de mon moi. Ce que Freud appelle l'objet, c'est cet autre, l'objet d'amour. L'amour est une étrange expérience qui peut relever du narcissisme le plus vitalisant, car plus je me sens aimée, plus je me sens aimable. Mais cela peut aussi conduire du côté du narcissisme mortifère, de ce que Lacan nommait la tendance suicide du narcissisme, où je ne m'aime plus qu'à travers le prix que j'ai pour l'autre, où je ne compte plus pour rien. Si je n'obtiens pas un regard de l'autre, un signe d'amour, et si l'autre vient à ne plus m'accorder de prix, à m'ignorer, à me confronter à un non-regard, je vacille.
France Inter. L'inconscient. Cette semaine avec Clotilde Le Guild.
Alors, avançons-nous ensemble dans cette région de la première fois. Avançons-nous avec Virgin Suicides. Vous souvenez-vous de Lux Lisbonne ? Quel prénom, Lux. Lux comme la lumière. Comme aussi d'ailleurs une des belles filles de Freud, qui se nommait Lux, pour Lucie, je crois, et à qui Freud écrit dans sa correspondance avec ses enfants. Lux était celle qu'il préférait et à qui il s'adressait avec affection. Mais revenons à Virgin Suicide. Lux, c'est donc le nom de l'héroïne de Sofia Coppola. Lux vit dans une maison de la banlieue de Détroit dans l'état du Michigan. Kirsten Stewart est Lux. Lux est blonde, comme ses quatre sœurs. Elle a les cheveux longs. Elle a une façon d'être là, un petit peu entre centre et absence, un peu là et ailleurs, avec son sourire et ses yeux mi-clos. Et elle a cette légèreté que procure l'existence lorsque la question de la sexualité ne s'est pas encore tout à fait posée. Elle est déjà une jeune fille, et en même temps, elle a encore quelque chose de l'enfant. Lux vit avec sa mère, qui veille sur ses cinq filles, comme sur son bien le plus cher, comme sur ses objets d'amour. Elle vit aussi avec son père, professeur de mathématiques, qui se tient un peu à distance de l'éducation de ses filles, qui laisse sa femme veiller sur celle-ci. Mais la première fois pour Lux, cette première nuit d'évasion, cette nuit qu'elle passera sur la pelouse du collège avec Tripp, ce premier consentement va la confronter à un trou noir. Car à l'aube, sur la pelouse, après avoir eu sa première relation sexuelle, Lux se réveille toute seule. Virgin Suicides est le premier film de Sofia Coppola. Virgin Suicides est aussi un roman de Jeffrey Eugenides. Pour sa première fois à elle, Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, a choisi de parler de la première fois d'une jeune fille. Avec Virgin Suicides, Sofia perd aussi sa virginité de réalisatrice et se lance dans un territoire tout autre que celui de son père. Vous vous souvenez certainement de l'univers des Corleone, l'univers du pouvoir souterrain en marge de l'État, l'univers de la loi du plus fort et de la pulsion de mort, l'univers de la virilité qui s'affirme dans l'exercice du pouvoir imposé par la violence et les capitaux clandestins, l'univers de la famille. Sofia Coppola nous offre, elle, une plongée dans l'intimité d'une famille, mais d'une famille de filles. Only girls. Dans cette famille, le père est destitué. Le parrain semble d'un autre monde. Dans cet univers, c'est la mère qui veille sur ses filles et c'est elle qui exerce un pouvoir sur leur corps. Sofia Coppola, fille de Francis Ford Coppola, fait ses premiers pas de réalisatrice en 1999 en nous plongeant dans un univers de filles, de sœurs, un univers où ce n'est pas la mafia qui fait la loi, mais où règne pourtant une autre violence, une violence sourde, qui n'en passe pas par la terreur et la menace, mais qui en passe par le silence, l'étouffement, les règles et le caprice d'une mère qui croit protéger ses filles en les enfermant. Dans l'univers de Virgin Suicides, le père est perdu et n'y voit rien. C'est un univers où le père s'est comme évaporé. Évaporation du père, comme disait Lacan en 68. Ici, les cinq filles Lisbonne, celles que l'on découvre sous la caméra de Sofia Coppola, sont livrées à une drôle de loi. La loi d'une mère qui, à défaut de parler à ses filles, croit savoir quel est leur bien. Qu'est-ce qu'une première fois ? C'est la question que pose Sofia Coppola à travers son regard de jeune cinéaste sur cette histoire sombre. Est-ce que cela compte une première fois ? Ou faut-il faire comme si cela ne comptait pas ? Faut-il faire comme si cela ne nous faisait pas peur et n'avait pas de conséquences ? Sofia Coppola choisit de montrer les effets étranges et ici même irréversibles d'une première fois ratée. Dans Virgin Suicides, il est question de la perte de la virginité qui confronte une jeune fille à un point opaque en elle-même, de cette première fois qui ne se passe pas du tout comme prévu. Lux croyait avoir fait une rencontre amoureuse et se retrouve traité comme un corps laissé tomber, comme une chose dont on a joui et qu'on laisse derrière soi sans un mot, sans un regard. Le prince charmant s'est évaporé, disparu, plus de traces. Revenons alors ensemble sur la tragédie de Virgin Suicides et sur ce qu'elle nous apprend de l'amour, de la première fois, de la rencontre du sexuel, mais aussi de ce que Lacan appelait le ravage maternel. Freud remarquait qu'il y avait un tabou autour de la perte de la virginité, un tabou propre à la civilisation. Comme si ce franchissement était aussi objet d'angoisse, comme s'il y avait là quelque chose de délicat à symboliser, à faire entrer dans l'ordre du monde. Perdre sa virginité n'est pas rien, et chaque civilisation a tenté de symboliser cette expérience en instaurant des rites, des coutumes, des normes aussi, permettant justement de rendre compte de la valeur de cette expérience. Pour Lux Lisbonne, l'expérience de la première fois produit un effet inattendu. Elle est comme confrontée à un indicible. Mais auparavant, pour saisir ce qui lui arrive, il faut comprendre d'où vient Lux. Il faut rappeler que dans cette famille qui semble parfaite, où la mère au foyer règne sur sa progéniture et s'appuie sur les règles du catholicisme pour savoir ce qu'il faut faire en matière d'éducation, dans cette famille, il y a pourtant eu un premier drame.
Cécilia ! Cécilia !
Cécilia Lisbonne, la fille cadette de la famille, en proie à un mal de vivre, soumise à des interdits asphyxiants. Cécilia Lisbonne s'est jetée par la fenêtre lors d'une soirée entre amis qui avait justement pour but de l'aider à retrouver une légèreté de l'être. Lors de cette soirée, comme en un raptus, Cécilia s'est suicidée. Il y a donc là un trauma, un trou noir dans l'histoire familiale. Aucun mot ne sera posé sur ce passage à l'acte qui est venu trouer définitivement l'histoire familiale. Cécilia, au lieu de dire, au lieu de tenter même peut-être de se révolter contre l'ordre oppressant d'une famille un peu trop normative, Cécilia est passée à l'acte. Et pourtant, la vie reprend. La vie des quatre sœurs Lisbonne se poursuit, comme si la vie devait l'emporter sur la tragédie qui marque cette famille soudée, et peut-être un peu trop soudée.
L'inconscient, avec Clotilde Le Guil, sur France Inter.
Les images de Virgin Suicides, accompagnées de la bande-son de R, nous plongent dans cette atmosphère des années 70, où la libération sexuelle n'a pas encore atteint les familles traditionnalistes du Michigan. Sofia Coppola nous montre, à travers l'histoire de Lux, les effets du premier consentement. Étrange rapport à la sexualité, mais aussi étrange rapport à la vie et à la mort que va incarner Lux à travers sa trajectoire. Lux, pour la première fois, a eu le droit de sortir pour la soirée de fin d'année du collège. Et Lux a pu se laisser emporter par celui qui la couvrait du regard depuis plusieurs mois, Tripp Fontaine. Elle s'est laissée emporter et sans plus se sentir retenue, empêchée par cette mère asphyxiante, Lux a respiré. Lux a désobéi et n'est pas rentrée dormir. Lux a fait une nuit blanche avec Tripp Fontaine. Enfin, l'adolescente a respiré l'air de l'aventure, l'air du désir, l'air de l'amour. Mais si Tripp l'a emmenée à l'écart des autres sur la pelouse du collège, s'ils ont passé ensemble dans les bras l'un de l'autre quelques heures de la nuit, et si Lux a consenti à sa première expérience sexuelle, au petit matin, la jeune fille se retrouve propulsée dans un mauvais rêve. Lux s'est assoupi quelques heures, suite à cette nuit blanche, et elle ouvre les yeux à l'aube. Elle regarde autour d'elle. Rien, ni personne. Tripp a disparu. Elle est seule avec ce qui lui est arrivé, qui n'est peut-être rien, et qui pourtant l'a transformée. Il s'est pourtant passé quelque chose pour Lux, quelque chose d'irréversible. Lux a perdu sa virginité, et ne sera plus jamais la même. Mais celui à qui elle a dit oui, celui à qui elle a consenti, n'est plus là. Sans un mot, sans un message, il a disparu au petit matin. Pas si grave, pourrait-on penser. Mais alors, voilà, cela arrive. Peut-être que Tripp a eu peur, peut-être qu'il n'a pas assumé de rester aux côtés de Lux, que pourtant il a voulu pour lui. Mais pour Lux, les choses ne sont pas si simples. de s'être ainsi laissé faire par la rencontre, sans savoir ce qui allait lui arriver, la laisse désemparée. Seule sur la pelouse, sans personne qui la regarde, sans personne qui atteste qu'elle n'a pas rêvé, sans aucun témoin de ce qui lui est arrivé, Luc se retrouve comme face à une perplexité. Que lui est-il arrivé? Il faut dire que cette première fois ne s'est pas produite sans enjeu pour Luc. La jeune fille s'est extraite de sa famille, elle s'est arrachée à l'autorité maternelle, elle s'est arrachée à l'angoisse de cette mère qui a déjà perdu un enfant, elle s'est arrachée à ce contrôle exercé par une mère, elle-même angoissée à l'idée de voir ses filles devenir des jeunes femmes, à l'idée de les perdre. Pour punir ses filles, pour les punir de lui avoir désobéi, d'être sortis jusqu'à la nuit tombée, la mère les enferme et leur retire toute liberté. C'est terminé. Elles n'auront plus le droit d'être vues, ni d'être courtisées, ni d'être désirées. Elles seront ses objets à elles, ses choses, ses biens, sans que plus aucun garçon ne les convoite. La mère soustrait ses quatre filles au regard des garçons. Et le père ne dira rien, car il ne veut pas savoir. Il se tait et la laisse faire, elle, la mère, qui règne sur ses filles.
Après cette escapade de Lux, nous nous attendions tous à des retombées. Mais bien peu auraient imaginé des mesures aussi radicales. Les sœurs Lisbonne quittèrent le lycée et Madame Lisbonne ferma la maison comme un quartier de haute sécurité. Elle ne se contenta pas de les retirer du lycée. Le dimanche suivant, en rentrant de l'église, après un sermon d'une grande élévation spirituelle, elle ordonna à Lux de détruire ses disques de rock.
Immédiatement.
Mais maman...
Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit.
C'est pas juste.
Immédiatement. Tu as entendu?
Mais Lux, elle, ne se laisse pas faire. Lux ne consent pas à cet enfermement. La tragédie de Lux, c'est que se rencontre en elle cette nécessaire révolte contre la toute-puissance maternelle et une interrogation sur sa sexualité, sur ce qui lui est arrivé avec Tripp. Aurait-elle mieux fait de ne pas lui faire confiance, d'en choisir un autre pour cette première fois? Lux ne parle pas et se perd dans une conduite étrange. Elle, qui n'avait jamais eu d'expérience sexuelle avant Tripp Fontaine, elle qui était enfermée et préservée du danger que représentait la sexualité aux yeux de sa mère, voilà qu'elle vrille. Lux se donne à n'importe qui. Sur le toit de la maison familiale, Lux répond à l'enfermement en devenant l'objet sexuel de tous les garçons du quartier. Elle fait savoir aux gars du quartier qu'elle est consentante avec tout le monde et avec n'importe qui. Lux se situe dorénavant en ce lieu où elle convoque le regard. Elle qui a perdu un regard convoque tous les regards. Elle est dorénavant ce qui fait tache dans le paysage de la banlieue de Détroit. Et elle est ce que chacun regarde, sans savoir ce qu'elle veut leur montrer. Comme pour répondre à Tripp, comme pour lui dire « Je ne t'ai pas dit oui à toi en particulier, je dis oui à tout le monde, voilà, regarde. Regarde maintenant ce qu'est pour moi le consentement. Regarde ce qu'est la sexualité pour une fille comme moi, regarde. Ce n'est rien. » Car je le fais avec n'importe qui, n'importe quand, sans un mot, car cela n'a aucune importance pour moi. Voilà ce que semble dire Lux, qui pourtant ne parle pas. Lux se perd dans cet acting out. L'acting out est cette conduite, repérée par la psychanalyse, cette conduite qui consiste à montrer quelque chose qu'on ne parvient pas à dire, quelque chose qui renvoie à la pulsion, quelque chose qui renvoie à la jouissance. Lux ne sait pas que c'est aussi son propre consentement qu'elle tente d'explorer, qu'elle tente peut-être même de récupérer dans cette répétition mortifère. Lux ne sait pas que c'est cette première fois qu'elle tente de retrouver. Cette marque première, elle cherche à se la réapproprier, en décidant dorénavant elle-même de l'issue des rencontres toujours manquées qu'elle a avec les garçons. Mais elle ne sait pas que cette marque, elle ne la retrouvera jamais. Peut-être que dans cet univers marqué par le suicide d'une fille, dans cet univers qui deviendra aussi celui du passage à l'acte de toutes les filles Lisbonne, dans cet univers tragique, ce dont Lux avait besoin, c'est de pouvoir consentir et de pouvoir se fier à un désir vivant. Peut-être que le sort de Lux aurait pu être tout autre si un mot avait été dit, si Tripp avait laissé un petit message, si sa mère aussi avait su lui dire quelque chose de son propre manque, de son propre deuil, de sa propre angoisse, au lieu de l'étouffer. Peut-être que le premier consentement est aussi une forme de dénuement, et que le risque est tout autant de se voir métamorphosé que de se voir fragilisé. Car l'amour, comme le disait Lacan, l'amour est cette image de soi dont l'autre vous revêt et qui vous habille. Il le disait à propos de l'Holvestein. L'amour est ce regard porté par un autre qui revêt mon corps d'un éclat nouveau. La disparition alors de l'amour peut aussi être ce qui me confronte au dénuement. C'est mon être qui s'évapore pour moi-même, mon insoutenable légèreté de l'être qui s'envole. Et je reste avec mon corps, lourd, en proie à une exigence pulsionnelle, une exigence de jouir des mots de l'autre, du corps de l'autre, de la présence d'un autre qui dorénavant me manque. Là où la trilogie du Parrain, de Francis Ford Coppola, s'achève sur un cri qui ne peut pas se faire entendre, souvenez-vous, le cri de Michael Corleone, perdant sur les marches de l'opéra de Palerme sa fille, ce qu'il avait de plus cher au monde. Virgin Suicides de Sofia Coppola s'achève sur un autre cri sourd, un cri à la Edouard Munch, le cri d'une jeune fille dont le nom la prédestinait à la lumière et qui s'est perdue dans la nuit noire du trauma. Ici s'achève ce premier épisode sur le consentement entre désir, amour et jouissance.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Clotilde Le Guil.
Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions. Mais tout de suite, voici Juliette Armanet, L'épine, sur France Inter.
Ça m'a griffé comme une épine instantanée, divine. Ça m'a laissé une trace infime, presque effacée. Collé plus jamais la même avoir dans la vitrine, c'est bien caché, c'est mon épine, c'est mon secret. Si tu veux je te file la combine.
C'est à vous, je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 18 ans, j'ai écouté votre émission. Elle m'a fait penser à une amie d'enfance et elle m'a amenée à me poser une question. Ce qui m'a tout d'abord intéressée, c'est que votre manière de définir le premier consentement comme une expérience sans méthode où on accepte de faire sans savoir. Là où j'ai reconnu la situation de mon amie, c'est dans l'histoire des Virgin Suicide, spécifiquement dans le rapport d'enfermement et de restriction de liberté avec la mère. Je me suis donc demandé s'il était possible pour une jeune fille de s'autoriser la rencontre avec l'autre, d'oser une expérience inconnue dans cette situation avec une telle mère. Donc pour Lux, ce premier consentement, il déchire quelque chose de son rapport à sa mère. Et je me demandais si le premier consentement d'une jeune fille rompait systématiquement quelque chose du rapport à la mère. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Éléonore, pour cette question qui est très profonde et qui est aussi une question qui a beaucoup intéressé le psychanalyste Jacques Lacan, que je cite souvent dans mes podcasts. Alors, je suis sensible au fait que vous ayez entendu cette idée que le premier consentement est une expérience, au fond, radicale, qui ne renvoie pas à une méthode pour laquelle il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose de l'ordre d'un saut, de l'ordre d'une aventure dont on ne peut pas prévoir à l'avance les conséquences, même si on peut tout de même essayer de faire confiance à ce qu'on éprouve dans une rencontre. Vous dites ensuite que le personnage de Lux Lisbonne dans Virgin Suicides vous a fait penser à une amie à vous. Et cela vous amène à vous questionner au fond sur ce rapport mère-fille et sur les incidences de la découverte de la sexualité chez la fille sur le rapport à la mère. Alors dans Virgin Suicide, évidemment, on est dans une situation particulièrement tragique puisqu'il s'agit d'une mère qui finalement refuse que ses filles deviennent des femmes. Donc c'est ce que montre très bien Sofia Coppola dans la façon dont elle traite ce film, c'est-à-dire que elle montre chez cette mère une attention au fait que ses filles soient en sécurité. Hein? Quand sa fille Lux lui dit « Mais j'étouffe ici, maman j'étouffe ici, je ne peux pas vivre comme ça enfermée », que lui répond sa mère ? Elle n'entend pas le message de sa fille qui lui dit qu'elle étouffe du point de vue du désir. Sa mère lui répond « Ici, vous êtes en sécurité hein ». C'est-à-dire que pour cette mère, finalement, la question du désir ne parvient pas à se poser. Hein, la question du désir naissant chez ses filles de rencontrer un ailleurs, hein, de sortir de la famille, c'est une question qui est en quelque sorte déniée par cette mère qui privilégie la sécurité sur le désir. Et enfin, ce que je dirais, parce que votre question elle est aussi profonde, au-delà finalement du cas de cette problématique ici qu'on pourrait appeler du ravage maternel, comme disait Lacan, et qui concerne en propre l'héroïne de Virgin Suicide, au fond vous posez la question des effets du premier consentement. Et je dirais que ce n'est pas que le premier consentement doit nécessairement produire une cassure, mais c'est que le premier consentement est toujours un franchissement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avant et un après. Et au fond, après un premier consentement, on ne pourra jamais redevenir celle qu'on était auparavant. Et en effet, ce premier consentement, eh bien, il implique aussi, ce premier consentement d'une fille, il implique aussi, peut-être pour une mère, qu'elle consente à laisser, au fond, un peu d'espace hein, chez ses filles pour la dimension du désir, c'est-à-dire, au fond, que elle-même, la mère, ne soit pas toute mère, ne soit pas dans la toute-puissance, ne soit pas dans cette tentative d'asphyxier ses enfants pour toujours pouvoir les contrôler, mais que cette mère fasse elle-même une place dans sa vie à la femme qu'elle est. Voilà comment je vous répondrai, Éléonore.
Bonjour, je m'appelle Esther et j'ai écouté le podcast autour du premier consentement sur le film Virgin Suicide et ça m'a beaucoup intéressée, surtout sur les thématiques de la famille, de l'encloisonnement et tout ce qui tournait autour du premier consentement. Et la question que j'aurais voulu poser, c'était est-ce que Luc Fishburne, au lieu de se perdre définitivement dans son trauma lié à son premier consentement avec Tripp, aurait pu retrouver cette insoutenable légèreté de l'être dont vous parlez au cours du podcast. Merci beaucoup.
Merci Esther pour cette question qui porte sur le silence auquel se voit condamné Lux. En effet, Lux, au départ, n'a pas choisi de se taire. Lux, suite à ce premier consentement, suite à cette aventure qui est aussi pour elle de l'ordre d'une mésaventure et de l'ordre de quelque chose en tout cas qui la confronte à une sorte de perplexité et de désarroi, Lux cherche à qui adresser au fond son désarroi. Elle cherche à qui dire ce qui lui arrive, elle cherche à déchiffrer ce qui lui arrive. Et elle cherche à parler à sa mère. Mais sa mère, finalement, lui oppose une fin de non-recevoir. Sa mère refuse de l'entendre et sa mère répond par l'enfermement. Par l'enfermement et par le silence. Elle répond en lui intimant au fond de se taire, hein, en lui ordonnant de se taire sur ce qui lui est arrivé. Et en effet, c'est ce silence qui va précipiter Lux ensuite dans ce que j'ai appelé avec Freud l'acting out et puis enfin dans le passage à l'acte final. Mais vous avez tout à fait raison. On peut toujours finalement franchir en quelque sorte ce moment d'angoisse et de désarroi lorsqu'on parvient à en dire quelque chose, lorsqu'on parvient à faire entrer dans le langage ce qui a pu aussi nous couper la langue. Voilà.
Pour Clotilde Le Guil, que je remercie tout d'abord pour ce lumineux développement autour de l'amour du point de vue de l'expérience de la première fois. Au travers de votre développement, vous nous faites donc apercevoir combien l'amour et la raison discordent de structure et peut nous laisser égarer pour retrouver le fil de notre désir si on ne pose pas la thèse de l'inconscient. Donc, vous dites pas de consentement éclairé dans le pays de l'amour. Tout est donc possible puisque rien n'est écrit à l'avance. C'est donc vertigineux. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur l'expérience de Luce qui la laisse sans voix puisque elle donne son consentement et ensuite, il y a cette expérience de laisser tomber qu'elle traverse. Et donc, vous dites qu'au fond, cette répétition qui suit cette première expérience de laisser tomber est une tentative de revenir sur ce qui a été perdu et qu'elle ne retrouvera jamais. Alors, quel lien faites-vous entre le silence, silence qui est la conséquence du traumatisme vécu, et la répétition qui la plonge dans un dessaisissement de son être où elle n'est que corps, au fond? Comment sortir de la répétition? Merci beaucoup de votre éclairage.
Merci Fouzia pour cette question qui porte finalement sur le personnage de Lux. Lux, dont je rappelle qu'elle est jouée par Kirsten Dunst et non par Kirsten Stewart, comme je l'ai dit, et comme me l'a fait remarquer très justement une auditrice, Karen. Donc, Lux, qui est joué par Kirsten Dunst, est en effet un personnage que l'on voit voué à une répétition qui est, pour elle, mortifère. C'est-à-dire que cette répétition qui s'impose à elle suite à sa première expérience sexuelle et qui la conduit à se donner à n'importe qui, n'importe quand, sans véritablement, au fond, prendre en compte et donner une valeur à son désir à elle, cette répétition, où va-t-elle la conduire ? Et ce que nous montre Sofia Coppola, c'est que cette répétition la conduit véritablement du côté de la destruction et du côté de la mort. Et que cette répétition, elle est prise en quelque sorte au sein de ces coordonnées aussi familiales qui font que un silence règne dans la famille. Et c'est ce que vous notez. Hein. Il y a une articulation entre la répétition et le silence. Cette répétition pulsionnelle, elle vient en quelque sorte faire entendre, sur fond de silence, ce qui ne peut pas se dire, mais ce qui ne peut pas se dire pour Lux elle-même. Et ce que dit Lacan sur la répétition éclaire aussi ce qui arrive à Lux Lisbonne et ce qui lui arrive dans son rapport à la sexualité. Il dit que dans la répétition, parce que c'est tout de même mystérieux qu'on soit en proie à une compulsion de répétition sans saisir soi-même ce qu'on cherche à travers cette répétition. Et ce que dit Lacan, c'est que dans la répétition, ce qui est recherché, et c'est là où j'ai beaucoup pensé au premier consentement, dans la répétition, ce qui est recherché, c'est quelque chose comme la marque première. La marque du premier événement traumatique. Et c'est justement cette marque première qui ne sera jamais retrouvée. Et c'est pourquoi la répétition est une sorte de commémoration manquée de l'événement traumatique. Et donc, pour Lux Lisbonne, en effet, ce qu'on aperçoit, c'est que cette répétition rejoue à la lettre ce premier consentement, ce premier événement, et en même temps force en elle quelque chose de son désir. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le point de bascule du désir à la pulsion. Donc le silence, on pourrait dire que c'est en effet ce qui accompagne nécessairement cette soumission à la compulsion de répétition dont le sujet ne peut rien dire.
Bonjour, je m'appelle Hector, j'ai 20 ans. J'ai beaucoup aimé votre émission sur Virgin Suicides. Et j'avais une question sur ce qu'est le metteur en lumière, c'est-à-dire aussi sur le consentement, l'après du consentement. On parle beaucoup de l'avant du consentement, mais finalement l'expérience de l'après, après l'expérience sexuelle, semble tout aussi importante pour comprendre le consentement. Dans ce que vous avez analysé, l'après semble déterminer l'histoire de Lux. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas une tristesse et une sensation de solitude inhérente presque à l'expérience sexuelle, mais qui est mise dans l'ombre par l'enthousiasme qui l'entoure, et que le film ici met en évidence, et donc que cette tristesse, cette sensation de solitude ont entré justement de l'empêcher par une consolation, et que l'abandon empêcherait de le trouver. Je voudrais savoir donc ce qui permet, selon la psychanalyse, de trouver un remède justement à cette tristesse, ou alors en tout cas de savoir d'où elle vient. Merci beaucoup.
Merci Hector, je suis contente d'entendre aussi la question d'un jeune homme de 20 ans qui se sent aussi concerné par cette affaire de consentement. Parce qu'effectivement, Virgin Suicide, bon, c'est un film qui porte vraiment sur un univers féminin. Donc là, ce que vous soulignez, Hector, c'est très fin, c'est-à-dire c'est le fait qu'il y a un avant le consentement, et on s'y intéresse beaucoup en effet, qu'est-ce qu'il y a avant ce consentement premier, est-ce qu'on sait où on va, est-ce qu'il s'agit juste de confiance, est-ce qu'il s'agit d'y aller sans savoir, mais vous dites aussi, il y a un après le consentement. Et l'après, vous savez, c'est une dimension que Freud a tout de suite soulignée comme étant fondamentale, ce qu'il a appelé le Nachträglich, l'après-coup. C'est seulement après-coup au fond, que ce qui a été, par exemple, traumatique, c'est ce que dit Freud, hein, c'est comme ça qu'il mentionne l'après-coup, c'est seulement après-coup que ce qui a été traumatique se révèle comme tel. Et au fond, pour le consentement, on pourrait dire ça aussi. C'est seulement après-coup qu'un sujet peut s'apercevoir des effets produits par le consentement. C'est-à-dire, c'est seulement après coup qu'un sujet peut tirer aussi les conséquences d'une rencontre et qu'il peut en éprouver aussi bien un émoi, un élan vital, qu'il peut en éprouver quelque chose comme, vous dites, une tristesse ou quelque chose comme un désarroi pour Lux. Donc, oui, le consentement nous revient après coup comme une forme d'énigme qu'il peut nous appartenir de déchiffrer, par exemple, en analyse. Alors, vous dites aussi que, finalement, la sexualité, et en particulier la première expérience sexuelle, nous confronte peut-être à une forme de solitude là où on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que dans la rencontre sexuelle, là, je vais suivre un petit peu ce que nous apprend Lacan. Dans la rencontre sexuelle, on peut s'attendre à parvenir à communiquer totalement, à faire un, en quelque sorte, dans l'expérience de la jouissance, hein, à fusionner. Et finalement, on s'aperçoit que on ne parvient jamais à s'entendre totalement. On ne parvient jamais à fusionner avec l'autre dans la rencontre sexuelle et dans la rencontre amoureuse. Il y a toujours, en effet, une part de solitude, même si on est avec l'autre. Et au fond, il s'agit de voir comment pouvoir assumer cette part de solitude, solitude qui a à voir aussi avec la jouissance, qui ne permet pas nécessairement de faire rapport avec un autre. Comment on peut assumer cette part de solitude et en même temps inscrire la rencontre dans un véritable désir avec l'autre. Ce que dit Lacan sur la rencontre, c'est que finalement, il parle d'Achille et de Briséis, puisque vous appelez Hector, donc je vais me référer à la mythologie. Il parle d'Achille et de Briséis et il dit finalement « Achille ne pourra rejoindre Briséis que dans l'infinitude. Il ne pourra jamais la rejoindre totalement. Il ne pourra jamais l'avoir tout à elle. Il ne pourra jamais fusionner avec elle, mais il pourra avancer au fond avec elle et la rejoindre dans un horizon » qui comporte une dimension d'infini. Alors peut-être que la psychanalyse, l'expérience d'une analyse, eh bien c'est ce qui nous permet de supporter le malentendu entre les sexes, de supporter le malentendu de la rencontre aussi amoureuse et de sauver la dimension du désir. Parce que le remède à la tristesse, c'est toujours le désir. Merci pour vos questions et merci à Selim Guéribi à la technique, Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Franck Olivard qui récolte vos questions et Anaïs Reynard pour la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Gourion qui vous parlera de la place de l'inconscient dans notre capacité à nouer des liens. D'ici là, vous pouvez déjà écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr et sur toutes les plateformes d'écoute et lui poser des questions par note vocale ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 8 octobre pour poursuivre sur le consentement, l'amour et la jouissance.